Bientôt 8h23 à Paris, la revue de presse des journaux français, c'est avec Frédéric Couteau. Bonjour Frédéric.
Bonjour Arnaud, bonjour à tous.
Et à la une, l'État islamique qui ne désarme pas.
Irak, Syrie, l'État islamique gagne toujours du terrain, c'est le grand titre du Figaro. Certes, constate le journal, 10 mois de bombardements aériens ont porté leurs leçons. La coalition internationale a empêché la chute de Kobané et favorisé la reconquête de Tikrit. Mais après 5300 raids, le califat, entre guillemets, n'est pas fondamentalement affaibli. Il vient de s'emparer du verrou de Ramadi, à 100 km de Bagdad, et menace la cité antique de Palmyre, à 200 km de Damas, en mettant en déroute les forces irakiennes. Il a fait main basse sur des armes lourdes livrées par les États-Unis. Et attention, prévient le Figaro, attention, si les stratèges de la coalition ne révisent pas rapidement leur plan de campagne, les événements à venir les y forceront. Daesh se rapproche lentement mais sûrement de ses deux objectifs suprêmes, à savoir Bagdad et Damas. Le jour où les capitales de l'Irak et de la Syrie seront directement menacées, chacun comprendra que cette guerre peut être perdue si l'on n'engage pas les moyens nécessaires pour la gagner. Alors justement, comment repousser Daesh ? Une présence au sol renforcée des Occidentaux, États-Unis en tête, est nécessaire, estime le Figaro. Washington en mesure déjà la nécessité, comme l'a montré récemment le raid des forces spéciales Delta, qui a permis d'éliminer un haut responsable de l'EI et de saisir une mine de renseignements. Et puis, des clarifications stratégiques s'imposent, pointe encore le Figaro. En Irak, l'absence d'une armée digne de ce nom met en péril l'unité du pays. Tandis que les Occidentaux ont formé 7000 soldats réguliers, les milices chiites affiliées à l'Iran alignent, elles, 35 000 hommes. Un accord politique est indispensable, affirme le Figaro, pour intégrer ces combattants chiites aux forces nationales, comme ceux des tribus sunnites tentées de rallier l'EI.
D'ailleurs, Bagdad a franchi le pas, relève Libération.
Oui, Bagdad qui a décidé d'envoyer des milices chiites pour tenter de reconquérir Ramadi, prise dimanche donc par les djihadistes. Une colonne de 3000 combattants, des unités de mobilisation populaire, ont déjà rejoint la ville d'Abaniya, à une vingtaine de kilomètres de Ramadi. Seulement voilà, des milices chiites qui interviennent en territoire sunnite, le risque de dérapage est important. Les responsables irakiens étaient divisés, les Américains aussi, rapporte Libération. Officiellement, Washington déclare que les milices chiites ont un rôle à jouer à Ramadi, tant qu'elles sont sous le contrôle du gouvernement irakien. Mais les sénateurs républicains John McCain et Lindsey Graham s'en sont à l'inverse alarmés. Quels que soient les succès opérationnels que les milices chiites pourront avoir, ils seront largement dépassés, estiment en effet les deux sénateurs américains, par les dommages stratégiques causés par leur violence sectaire et par la peur et les suspicions qu'elles inspireront aux Irakiens sunnites. En tout cas, hier soir, rapporte Libération, le gouvernement irakien n'avait toujours pas lancé de contre-attaque. Des forces se massaient à Usaïba, à 7 km seulement de Ramadi. Les djihadistes, eux, continuaient à installer leur drapeau noir sur les principaux bâtiments de la ville, tout en bâtissant des lignes de défense et en enfouissant des mines.
L'affaire des quotas de migrants est aussi toujours à la une.
Avec tout d'abord cette tribune de Bernard Cazeneuve, le ministre de l'Intérieur, dans La Croix. Bernard Cazeneuve précise que la France est favorable à un mécanisme européen de répartition des demandeurs d'asile, mais pour lui, pas question d'instaurer des quotas. Les réfugiés bénéficiant de l'asile ne peuvent en aucun cas être soumis à des quotas, dit-il. La décision de les accueillir ne peut que résulter de critères et des engagements internationaux des États membres de l'Union et pour la France, du respect de ses valeurs et de sa constitution. Toutefois, commente La Croix, la réponse de l'Union européenne au drame des migrations ne peut se limiter à cette seule question des quotas. À court terme, il est impératif de lutter contre les réseaux de passeurs dont les migrants sont les premières victimes. Et il faut aussi, chaque fois que c'est possible, agir pour la stabilisation des pays de départ. Et en la matière, constate le quotidien catholique, c'est la France qui se trouve bien seule. Ces opérations militaires au Mali ou en Centrafrique ne bénéficient en effet quasiment d'aucun soutien européen. Libération entre également dans le débat. Les 28 doivent trouver au plus vite une position commune, estime le journal, pour éviter que les efforts ne pèsent uniquement sur les pays d'entrée dans l'Union européenne, car le chacun pour soi domine, déplore Libé. Les uns affichent une position de fermeture et laissent aux autres, plus exposés, la charge de l'accueil. Alors que les réfugiés politiques, faut-il le rappeler, disposent d'un droit consacré par les grands textes internationaux à franchir les frontières et à bénéficier d'un accueil décent. les communiqués les plus brumeux ne sauraient faire oublier ce droit fondamental.
À la une également ce mercredi, la situation au Burundi.
Situation d'une fragilité extrême, affirme l'envoyé spécial du Monde. À la merci de l'acte d'un extrémiste ou d'une erreur, si cela se produisait, une mécanique terrible pourrait s'enclencher. Exemple, hier, dans le quartier de Kinanira 2, à Bujumbura, une petite unité de l'armée, à peine une dizaine d'hommes, vient une nouvelle fois de repousser les contestataires en tirant au-dessus des têtes, rapporte Le Monde. Cela ne suffit plus, la foule grossit, les manifestants sont à présent des centaines et ils débordent les soldats, agrippent leurs uniformes, essaient d'arracher leurs armes. Les militaires n'ont qu'un geste à faire et la scène se transforme en bain de sang, alors que le Burundi est plongé dans une telle tension que la moindre étincelle peut avoir des conséquences dramatiques. Mais finalement, constate l'envoyé spécial du Monde, il y a un sursaut, les contestataires ne lynchent pas les soldats, ils auraient pu, les militaires ne massacrent pas la foule, ils ont failli, les soldats se replient vers l'école où ils ont leur quartier, peu à peu le calme revient. En attendant, conclut l'envoyé spécial du Monde, en attendant la prochaine manifestation.
Enfin, en France, la réforme du collège suite.
Oui, les profs étaient dans la rue hier, pas aussi nombreux qu'on le pensait. Certes, Libération parle de petits bides, rien de comparable avec les grosses mobilisations dont les enseignants sont capables. Le Figaro, pour sa part, retient qu'après une mobilisation en demi-teinte, la ministre Vallaud-Belkacem reste ferme. La réforme entrera en vigueur à la rentrée 2016. Le débat sur le collège unique n'est pas clos pour autant. Certains journaux vont dans le sens du gouvernement, comme la Dépêche du Midi. L'esprit de la réforme est de donner à chacun la possibilité d'aller au bout de son destin scolaire et par conséquent, selon le joli mot de Jules Ferry, de rendre l'école aimable. Et puis d'autres affirment leur désaccord. Cette réforme déplore, par exemple, la presse de la Manche. Cette réforme a toute l'apparence d'un plébiscite en négatif.
Frédéric Couteau, la revue de presse à retrouver sur RFI.fr. Vous restez avec nous dans un instant, l'actualité africaine et juste avant 9h, les dernières nouvelles du Festival de Cannes sur RFI.